au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Anne-Françoise Dumont.
Ah, mon cher Jean Prouvot, bonjour, je suis bien aise de vous voir. Je m'inquiétais, figurez-vous. Car enfin, nous nous sommes quittés en 1762 et nous sommes en 1798. Je me demandais si vous aviez survécu à la tourmente de ces dernières années. Et je vous retrouve, égal à vous-même, tout va bien. Vous êtes venu à Canal Academy nous parler, laissez-moi deviner, de la 5e édition du dictionnaire de l'Académie. C'est bien cela?
Tout à fait.
Mais dans un premier temps, si vous le voulez bien, Jean Prouvot, vous allez nous dire dans quel contexte paraît cette 5e édition. La seconde moitié du XVIIIe siècle est une période propice au changement, n'est-ce pas? Et c'est bien ce qu'annonçait déjà la 4e édition, celle de 1762.
Oui. Il y a toujours un moyen de suivre à cette période-là l'évolution, les changements, c'est peut-être l'ordre alphabétique. Et cet ordre alphabétique, justement dans la 4e édition, celle de 1762, avait été aménagé. Il y avait eu une révolution qu'il faut rappeler. On avait séparé en effet la voyelle I de la consonne J. Parce que jusque-là, I et J étaient mélangés. Et on sait combien c'est difficile pour nos étudiants, pour nous-mêmes, quand on consulte ces ouvrages, de se repérer entre la voyelle, la consonne, etc. Et puis, il y avait la voyelle U et la consonne V qui étaient aussi mélangées. Et dans l'édition de 1762, on sépare I de J et U de V. C'est un grand progrès. C'est évidemment aussi l'ère de la philosophie, de l'organisation, de la structuration. On a besoin de retrouver les choses rapidement et peut-être que là, c'en est un indice déjà.
Et toucher à l'ordre alphabétique, c'était déjà pré-révolutionnaire. Les philosophes entrent nombreux à l'Académie. Voltaire est élu en 1746 et D'Alembert en 1754. Il sera élu secrétaire perpétuel en 1772. Marmontel et Condillac siègent à leur côté. L'esprit philosophique souffle à l'Académie.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. On a souvent d'ailleurs oublié de préciser à quel point le dictionnaire de l'Académie française, et l'Académie française plus largement, était un bel enjeu intellectuel. Ça l'a toujours été, mais encore plus particulièrement peut-être au XVIIIe siècle. En effet, bon, quand on évoque Voltaire, on sent bien que l'esprit philosophique est là. Voltaire a tout fait pour être académicien, il le fut, et y a joué un rôle important. Et d'autres,
jusqu'à la fin de sa vie.
Jusqu'à la fin de sa vie, je crois tout à l'heure. Oui. Ce qui est aussi impressionnant, c'est que les philosophes avaient très vite compris combien le dictionnaire de l'Académie française de la fin du XVIIe, par le fait même que les définitions étaient fondées sur le genre et l'espèce, sur donc une approche philosophique du mot, et ensuite bien sûr la description de l'usage, avec des définitions de type logique, les philosophes avaient très bien compris que définir les mots comme l'avait fait l'Académie française, c'était en réalité faire aussi œuvre philosophique, au-delà de la description de la langue. Et ça plaisait beaucoup aux philosophes, et donc, loin de critiquer l'Académie française dans la manière de définir les mots, les philosophes en étaient tout à fait ravis. Et c'est ce qui explique qu'ils veulent aussi entrer à l'Académie française pour y faire prévaloir un certain nombre de leurs points de vue, et aussi un point de vue sur la langue, parce que dans le fond, les encyclopédistes ont, sur la langue française, bien des points de vue qui les rapprochent du travail que fait l'Académie. Alors, vous l'avez dit, hein, c'est une période faste pour l'esprit philosophique. Hein. Malesherbes y entre en 1775, Laharpe en 1776, Chamfort en 1781, Condorcet en 1782. Auparavant,
Aurait voulu y être. Hein.
Voilà, auparavant, on avait eu donc D'Alembert. Et alors, D'Alembert sera finalement secrétaire perpétuel de 1772 à 1783 et Marmontel de 1783 à 1793. Peu de gens, je crois, savent que D'Alembert fut secrétaire perpétuel de l'Académie française et que l'édition que nous allons examiner ensemble, en vérité, eh bien, est celle qu'a dirigée en grande partie D'Alembert. Donc on comprend bien que l'esprit philosophique est là, en même temps qu'évidemment, que ça a toujours été le cas à l'Académie française, et c'est sain, il y a une opposition. Il y a, voilà, l'autre côté, il y a l'abbé d'Olivet, hein, qui mène le parti dévot. Mais en disant le parti dévot, on y mettrait aujourd'hui une connotation peut-être un peu péjorative, mais l'abbé d'Olivet, pardon,
c'est qui avait été le maître de Voltaire.
Voilà, avait été le maître de Voltaire. Les rapports entre les deux hommes étaient excellents. Ils n'avaient pas tout à fait les mêmes points de vue, évidemment, religieux.
Ni le même âge aussi.
Ni le même âge. Mais vraiment, tout était de bon ton. Hein. Mm-hmm. Alors, derrière d'Olivet, on aura le duc de Richelieu, Séguier, alors que derrière D'Alembert, un peu activé depuis Ferney par Voltaire, bon, on va se disputer le pouvoir aussi, et que D'Alembert soit secrétaire perpétuel, bon, évidemment, avait beaucoup d'impact, d'importance.
Bien sûr. Alors, Montesquieu et Buffon aussi.
Buffon, on sent aussi en quoi, alors je ne dirais pas que le dictionnaire de Thomas Corneille est encore présent à travers Buffon, mais Buffon, ce sont les sciences. Buffon, c'est sciences naturelles. Bon, il avait vraiment sa place à l'Académie française. Il y a Condillac aussi, qui succède d'ailleurs à l'abbé d'Olivet en 1768. Donc on a là, bon, un foyer de pensée vraiment très important. Et peut-être que l'Académie française doit sa survie, au très bon sens du terme, au-delà de la Révolution, par le fait qu'elle n'était pas, comme on a pu le faire croire, un repère de conservateurs. Et s'il y avait des conservateurs, il en fallait. C'était aussi nécessaire pour avoir une sorte d'objectivité dans la description de la langue.
Et de combat dynamique.
De combat très dynamique.
Le 30 mars 1778, Voltaire écrit à D'Alembert pour lui proposer un nouveau plan du dictionnaire. Il s'agirait d'ajouter étymologie et citation. Retour de Ferney, il est reçu avec tous les honneurs dus à sa réputation et à son âge. Il fait déployer à l'Académie une activité inhabituelle. Lui-même est chargé de la lettre A. À lui de montrer l'exemple. Il sera encore présent aux séances du 6 et du 27 avril et fait adopter le 7 mai un projet qui ne sera pas suivi. Était-ce un projet irréalisable, Jean Prouvot ?
Un peu comme souvent chez Voltaire, il y a dans l'homme un pionnier, quelqu'un qui veut bousculer les choses sans pour autant les révolutionner au dernier degré. Voltaire n'avait pas prévu la Révolution française. Mais ce dictionnaire de l'Académie, depuis le départ, est soumis à une pression du côté notamment des citations, du côté de l'histoire de la langue. Depuis la première édition, le débat est là. Et il y est encore, non pas aujourd'hui, mais il y est encore au XIXe siècle, comme nous le verrons plus tard. Et donc, c'est un débat qui est récurrent et en même temps qui court en filigrane tout au long de l'histoire de l'Académie française. Et là, Voltaire, qui s'intéresse énormément à la langue française, énormément au dictionnaire de l'Académie, parce que c'est cela aussi qu'on a tendance à oublier. Ces hommes veulent entrer à l'Académie française, non pas pour la gloire d'y être, parce que bien sûr c'est une gloire, bien sûr c'est une reconnaissance, mais ils veulent y être aussi pour faire changer les choses, pour en quelque sorte faire progresser le savoir sur la langue française, l'utilisation des mots, etc. Et alors Voltaire, très actif, qui a été nommé directeur malgré son âge, ou grâce à son âge, en tout cas grâce à sa réputation, le 30 mars 1778, le voilà nommé directeur par 20 de ses confrères pour un trimestre, et il travaille, vous l'avez fort bien dit, de manière très active. Et alors voilà ce qu'il est résolu. Il a été résolu sur la proposition de Monsieur de Voltaire qu'on travaillerait sans délai à un nouveau dictionnaire qui contiendra. C'est pas qui contiendrait, vous voyez, c'est qui contiendra. Donc le projet est lancé fortement. L'étymologie, comme on l'écrit à l'époque sans Y, reconnue de chaque mot. La conjugaison des verbes irréguliers, qui sont peu en usage, les diverses acceptions de chaque terme, bon, ben ça, l'Académie le faisait, mais surtout avec les exemples tirés des auteurs les plus approuvés. Donc là, intervention des citations, intégration des citations. Et puis, toutes les expressions pittoresques et énergiques de Montaigne, d'Amiot, de Charron, qu'il est à souhaiter qu'on fasse revivre et dont nos voisins se sont saisis. Et ce serait à la fois une grammaire, une rhétorique, une poétique, etc. Alors le projet est magnifique, le projet est intéressant, ambitieux, mais évidemment, il est tout à fait différent de ce que les académiciens ont fait jusque-là, qui est de décrire l'usage, strictement l'usage sans intervenir sur l'histoire du mot et sans la décrire.
Les académiciens sont perplexes.
Alors, ils sont perplexes, ils sont partagés, comme toujours, sur ce sujet. Et est-ce une bonne fée qui veille sur l'Académie pour que le dictionnaire de l'Académie ait cette pérennité de la première à la neuvième édition ? Le projet échoue. Parce que, bon, hélas, peut-on dire, Voltaire meurt. Bon, et comme il s'était chargé de la lettre A, ce qui était peut-être un peu imprudent, d'ailleurs.
En les chargeant, d'ailleurs, des 24 autres.
Voilà. Donc, comme là, l'exemple n'est pas donné avec la lettre A, le dictionnaire ne change pas et on continue sur la même lancée.
Le 18 mai, il écrit à D'Alembert : « Mon très cher secrétaire et maître perpétuel, je voulais courir à l'Académie, deux maladies cruelles me retiennent. Je vous recommande à vous et à mes respectables confrères les 24 lettres de l'alphabet. »
Voilà, ce qui est cependant merveilleux, c'est que ce projet...
15 jours avant sa mort.
Oui, oui, bien sûr.
À peine.
Ça montre aussi la vitalité de l'homme.
La vitalité. Hein,
qui monte à
Paris.
Et la
générosité.
Générosité, enthousiasme, il a une vision de l'avenir en permanence. Mais en réalité, ce qui est intéressant, c'est que ce projet-là va ressurgir.
Voilà. Hein,
nous aurons l'occasion de le voir. Oui. On a appelé ce projet de Voltaire, le dictionnaire de Voltaire, mais on l'appelait aussi le dictionnaire historique. Or, justement, l'Académie au XIXe siècle, eh bien, va se lancer dans ce projet dictionnaire historique de la langue française. Entre-temps, il y aura eu une sorte de révolution dans la linguistique, puisque naîtra la linguistique historique et comparative, qui fait que l'Académie était très en avance en lançant au XIXe siècle ce dictionnaire historique de la langue française. Et, on pourrait dire, Voltaire, visionnaire. Mais c'est tant mieux que là aussi, ça a échoué, parce qu'on a quand même un dictionnaire qui a une homogénéité de la première édition à la neuvième édition, bon, qui est extraordinaire.
Une autre marque sensible du changement, l'ouvrage de l'abbé Ferraud. Le très original dictionnaire avec un seul N, vous allez nous dire pourquoi, dictionnaire critique de la langue française, qui paraît peu de temps avant que n'éclate la Révolution, en 1787. Dites-nous, Jean, qui était Jean-François Ferraud, quel fut son parcours et quelle était la teneur de son dictionnaire ?
Alors, c'est un homme remarquable dans sa perception de la langue française, dans le travail qu'il effectue, très apprécié de l'abbé d'Olivet d'ailleurs, ils échangeaient très fréquemment, une correspondance suivie, et qui en même temps a bénéficié en ce 20e siècle et 21e maintenant, mais à la fin du 20e siècle, d'un groupe d'études d'histoire de la langue française dirigé par Caron, Philippe Caron, qui a fait rééditer avec une fort belle préface le dictionnaire justement critique de la langue française de Ferraud. Et il y a une petite histoire que je suis obligé de raconter parce que vous le savez, je hante souvent les brocantes pour récupérer tel dictionnaire qui me manque, il en manque toujours, ou telle édition, etc. Et il se trouve que les brocantes et les antiquaires font bien les choses, les bouquinistes, parce qu'on savait que Ferraud avait fait un supplément. Il en était question dans sa correspondance, mais on n'avait jamais trouvé ce supplément. Et un professeur éminent, Lard Thomas, en 1964, retrouve chez un bouquiniste ce manuscrit du supplément, vous l'avez là sous les yeux, qui a été donc photocopié. On en a fait un ouvrage qui était publié à l'école normale supérieure des jeunes filles. Je ne sais pas s'il est encore disponible, mais il a été trouvé donc par un brocanteur et c'est justement...
Supplément avec un P.
Oui, supplément avec un P, dictionnaire avec un seul N, on va y revenir. Et le brocanteur ne savait pas à qui l'attribuer, de quoi il s'agissait. Le professeur Lard Thomas voit cet ouvrage, en fait l'acquisition et ça a permis de continuer les études. Et ça a été pendant un moment l'objet évidemment d'analyses scrupuleuses et d'un regain d'intérêt pour l'abbé Ferraud. Alors, qui est l'abbé Ferraud ?
Là, je vois tome 1er AAD. Les tomes ont été publiés.
Oui, tous les tomes. Je n'ai amené que le premier, mais tous les tomes, le supplément complet a été publié. Et il est actuellement, là aussi on sent bien les alliances de qualité. Actuellement, si vous consultez les sites électroniques, vous trouverez le dictionnaire de l'Académie française et différentes éditions, mais vous trouverez allié à ce site le trésor de la langue française du CNRS, et vous y trouverez aussi le dictionnaire de l'abbé Ferraud, qui est en ligne avec, je crois, le supplément. Mm-hmm. Alors, l'abbé Ferraud, je viens de le dire d'ailleurs, abbé, Jean-François Ferraud, il est né à Marseille en 1725, il était le fils d'un chirurgien, Donc sans doute mieux instruit que d'autres confrères. On ne sait pas grand-chose sur sa petite enfance. On sait qu'il a été accepté au collège jésuite de Marseille, qui portait d'ailleurs le nom de son protecteur, l'archevêque de Belzunce. Je prononce peut-être mal. Et il se peut bien que l'élève Féraud ait été non seulement initié aux humanités, mais aussi aux langues vivantes.
Oui, c'est un angliciste. Hein.
Voilà, Marseille est un port.
C'est d'ailleurs curieux de constater à quel point sont nombreux les anglicistes
oui,
à cette époque.
Exactement. Nous le verrons. On ne croit pas si bien dire quand on parle de l'Académie française. Par exemple, Prévost Paradol, pour la 7e édition du dictionnaire de l'Académie, sera contacté, et c'était un angliciste convaincu, Diderot auparavant.
Diderot,
Et Voltaire, bon, on parlait aussi l'anglais, hein, les lettres anglaises, bon, montraient son expérience du pays. Et en même temps, bon, c'est goût philosophique pour ce pays.
Et Féraud a été traducteur de Thomas Ditch.
Voilà, alors Féraud, donc élève studieux, pieux, fait son noviciat à l'âge de 14 ans. Il est envoyé pour son scolastica à Besançon, sans doute de 1745 à 1749. Il va séjourner toujours en Provence et ne va quitter finalement sa province natale que vers la fin de sa vie, sous la pression donc des troupes révolutionnaires. On le suit entre le collège d'Avignon et celui d'Aix. Une carrière modeste de jésuite régent de rhétorique, sans événement, semble-t-il, marquant. Il n'a pas non plus fréquenté la demeure des grands. Il n'a pas fait une carrière de prédicateur en vue.
Oui, c'était pas un ambitieux.
Non, c'était un homme de cabinet, un homme d'études. Et donc, à la fin de sa vie, il est mort en 1807. On pense même qu'il est mort dans une certaine gêne, un peu oublié, sinon dans la misère. Donc voilà pour l'abbé Féraud.
Alors,
vous
dans
l'avez
son dictionnaire,
bien fait de dire.
50 000 mots traités, 14 000 articles tout de même.
Oui, alors, vous l'avez bien souligné tout à l'heure, traduction du dictionnaire universel des sciences et des arts de Thomas Dick, D-Y-C-H-E, hein, entre 1753 et 1754. Peut-être, on n'en sait rien, mais peut-être, un peu comme l'avait fait l'abbé Prévost, un contrepoint au travail de Diderot et d'Alembert qui s'amorçait et qui devenait chaque jour un peu mieux connu. Et là, on y découvre effectivement son goût pour l'anglais, sa bonne connaissance de l'anglais, comme Diderot traduisant donc aussi d'ailleurs un dictionnaire scientifique, enfin un dictionnaire de médecine. N'oublions jamais que les hommes d'église sont les grands pédagogues, hein, les grands professeurs aussi de ce XVIIIe siècle, et que par conséquent, ils ont toujours en tête l'aspect didactique du dictionnaire. Et donc en 1761, ils publient un dictionnaire grammatical portatif, dans lequel il y a des éclaircissements sur des aspects de l'orthographe, des aspects grammaticaux, le tout assez dispersé, et un argumentaire sincère, d'autant plus sincère qu'on a compris qu'il était angliciste, que Marseille est aussi un lieu où les langues étrangères sont vraiment brassées. Une ville cosmopolite. Et un argument sincère aux étrangers, aux jeunes gens et aux habitants des différentes provinces de France pour leur faciliter la connaissance des délicatesses et des bizarreries d'une langue qui est aujourd'hui la langue de toute l'Europe.
Ouais, et là, nettement affirmé, c'est
oui,
sa vision pédagogique.
Et c'est important, j'y pense à l'instant en le relisant. Quand Larousse écrit en 1856 son nouveau dictionnaire dans la langue française et qu'il pense à ces petits Français des écoles primaires qui ne parlent pas le français, qui ont un dialecte, on a déjà cette préoccupation
même
ici chez Féraud.
Ce sont des pédagogues.
Alors arrive évidemment le dictionnaire critique avec un N, 1787, on est très près de la Révolution française. L'abbé Féraud a une expérience. Il a déjà écrit deux dictionnaires ou participé à deux dictionnaires, à la rédaction de deux dictionnaires. 50 000 mots, vous l'avez dit, donc c'est quelque chose d'important comme nomenclature. Et 50 000 mots avec, alors c'est là peut-être ce qui est surprenant, une orthographe réformée. Il est convaincu que l'orthographe doit changer, qu'elle doit être simplifiée. Et sans être un révolutionnaire au dernier degré, il souhaite qu'on bénéficie d'une orthographe simplifiée. Alors, dictionnaire, les tout premiers dictionnaires s'écrivaient avec un N. Hein, donc, il y a toujours eu une hésitation sur un N ou deux N. Il prône la simplicité, donc un seul N. Recueil va s'écrire C-U-E-U-I-L.
Oui. Bon.
Et on retrouvera comme ça toutes sortes de choses étonnantes tout au long de l'ouvrage où il prend vraiment parti et peut-être aussi en profiter pour signaler qu'on peut encore toucher à l'orthographe en cette fin du XVIIIe et qu'on ne l'a pas suffisamment souligné, l'Académie n'a jamais été hostile à des modifications orthographiques. L'Académie a suivi l'usage et elle ne l'a pas devancé, ce n'est pas son rôle. Elle l'a suivi. On peut dire contre l'orthographe, c'est toujours un étonnement pour mes étudiants ou les amis à qui je montre la préface, par exemple, de la première édition de 1694, eh bien de constater que l'orthographe n'est pas du tout la même que celle d'aujourd'hui et qu'elle va évoluer au fur et à mesure. L'abbé d'Olivet, d'ailleurs, va participer beaucoup à cette évolution. Et ça explique bien, d'ailleurs, l'estime entre les deux hommes. Et l'orthographe de Ferrand, son dictionnaire n'a pas eu un retentissement extraordinaire, mais n'a pas été considéré comme monstrueuse, comme révolutionnaire au dernier degré. On peut peut-être regretter qu'elle n'ait pas été suivie, d'ailleurs. Ça
et quelle est son attitude par rapport au néologisme ?
Alors, il y a vis-à-vis des néologismes...
Il n'est pas contre.
Non, il y a quelque chose qu'on retrouve dans la cinquième édition du dictionnaire de l'Académie, d'ailleurs, la distinction entre la néologie et le néologisme. Alors, la néologie, on considère que c'est inévitable, qu'il y a nécessairement des mots nouveaux, donc il faut les ajouter. Mais inversement...
Il ne faut pas être maniaque.
Voilà. Mais inversement, le mot néologisme est toujours conspué. Enfin, on conspue quelqu'un...
Considéré comme un abus.
Voilà, considéré comme un abus. Donc la position est prudente. Il ne faut pas abuser du néologisme et il ne faut pas refuser la néologie.
Hein,
si on utilisait les mots. Donc il y est assez favorable et il y a bon nombre de mots qui sont installés dans le dictionnaire. Il m'en manque à l'instant, mais on aura des mots de l'aéronautique, des
Et d'ailleurs,
des
notre cinquième édition de l'Académie... se fera également l'écho de ces mots nouveaux.
Oui, oui, oui. Alors là, je prends par exemple le mot responsabilité dans la néologie chez Ferrand. Responsabilité est un mot de M. Necker. Et il le cite, « La confiance dans ce papier naît de la responsabilité du gouvernement. Ce mot peut être utile en certaines occasions. On lit aussi dans le journal de Gênes, la responsabilité des directeurs de la compagnie. » Donc, vous voyez, il enregistre l'usage, il dit après tout, ce mot-là peut très bien être utilisé. Ce mot de lessure est une expression nouvelle et un peu précieuse. Les bons écrivains ne s'en servent point encore. Vous voyez, la prudence,
oui, oui.
Mais pas non plus l'hostilité. Et c'est ça qui est véritablement est peut-être la bonne attitude.
Oui,
et
qui fait. Le bon sens est la clé.
Voilà. Il y a aussi la prononciation qu'il donne.
Oui.
Ça, c'est assez intéressant. Et... on allait oublier l'adjectif critique.
Oui.
Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant chez Ferrand, c'est qu'il offre véritablement un dictionnaire qui balaye les remarques faites sur les mots au cours du XVIIIe siècle, parfois même du XVIIe, et donne un point de vue. Et là, on se retrouve souvent avec des choses, je prends au hasard, là, affichées. Attacher un placard, une affiche, donc pour avertir le public de quelque chose. On a affiché l'arrêt. Je l'afficherai partout. Au figuré, afficher le bel esprit, afficher sa honte, s'afficher. Il n'est que du style simple et critique. Remarque, ce verbe est aujourd'hui fort à la mode, mais comme il arrive à toutes les modes, on en outre l'application, avec un seul P. Ce n'est pas tout que d'avoir une belle origine, il faut savoir l'afficher. Ça, c'est une citation. Donc voilà, je pourrais continuer, il donne des citations, il essaye de rendre un petit peu objective la critique, et c'est ce qui fait aussi que, pour tous ceux qui s'intéressent au XVIIIe siècle, littéraires et linguistes, c'est véritablement un excellent dictionnaire. C'est un des meilleurs dictionnaires du XVIIIe siècle pour décrire la langue.
Oui, consultation indispensable pour les XVIIIistes.
Absolument.
Vous écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.
Il est là, il est venu, le chevalier des mots, celui qui s'est battu sans peur et sans reproche pour que vive le bon français, qui nous a fait aimer la lecture et même l'orthographe. Vous l'aurez reconnu, c'est Bernard Pivot sur Canal Académie. Et quand il parle du vin, son vocabulaire devient gouléant. On croirait qu'il déguste les mots français. C'est un régal, c'est Bernard Pivot sur Canal Académie.
14 juillet 1789, prise de la Bastille. 10 août 1792, fin de la monarchie. C'est l'an 1 de la République. Les événements s'accélèrent. Le jeudi 8 août 1793, sur un rapport de Grégoire, la Convention nationale décide de supprimer toutes les académies. Le dictionnaire est au cœur de la tourmente, son sort est incertain. Il est finalement édité avec un discours préliminaire et un supplément qui ne sont pas le fait des académiciens. Vous allez, Jean, nous expliquer cela.
Oui, c'est une édition vraiment particulière dans l'histoire de l'Académie française. Particulière parce qu'elle est dans la continuité, particulière parce qu'elle est dans la rupture. On va dire « je suis normand », mais on va voir qu'effectivement, il y a les deux. Et il y a trois parties dans ce dictionnaire. Il y a un discours préliminaire, il est dans la rupture. Il y a le corps de l'ouvrage, il est dans la continuité. Et puis, il y a un supplément, il est dans la rupture et peut-être aussi un peu dans la continuité, en tout cas dans la polémique, ça c'est certain. Alors, dictionnaire... passionnant, hein. Je vous invite à en faire l'acquisition. On le trouve assez souvent. Moi, je suis surpris quand je fais les bouquinistes à des prix tout à fait modestes, enfin accessibles en tout cas. Alors même que souvent les bouquinistes n'ont pas perçu qu'il y avait un discours particulier et un supplément intégré. Donc, il mérite d'être dans votre bibliothèque.
Oui.
Alors, bon, comment tout ça s'est-il passé, hein ?
Alors, le 5 août 1793, on sait que les académiciens alertés n'étaient que quatre et Morellet décide d'emporter chez lui, de sauver les restes précieux qu'on allait détruire. Mais finalement, il fut obligé de remettre au comité d'instruction publique la copie de la nouvelle édition du dictionnaire. Mais enfin, il a essayé de la sauver. Il l'a emporté chez lui.
Oui, et alors évidemment...
Tout ça est émouvant, on sent bien... Dans quelles conditions il travaillait ?
Ce qui est surprenant, c'est que, effectivement, les révolutionnaires s'intéressent peu au compte-rendu des réunions, mais ils savent bien que l'Académie fait un dictionnaire. Et un dictionnaire, c'est chose sérieuse, c'est chose précieuse, c'est chose aussi commerciale. Et dans l'être humain, révolutionnaire ou non, il y a toujours l'idée qu'il y a des choses qui se vendent. Et donc. On demande, contre toute attente...
Ils n'ont pas manqué de venir le chercher chez M. Morellet.
Voilà. Il est donc obligé de remettre ce dictionnaire. Mais la tourmente est telle qu'il va rester 3 ou 4 ans perdu, en quelque sorte, dans les dossiers des révolutionnaires. Et quelqu'un viendra le chercher.
Venons-en au contenu de cette édition de 1798. Elle se compose d'un dictionnaire préliminaire, d'un dictionnaire... et d'un supplément, vous venez de le rappeler. Le discours préliminaire, Manifeste des Lumières, est l'œuvre d'un idéologue.
Oui.
Joseph Dominique Garra, G-A-R-A-T. Pouvez-vous, Jean Prouvot, nous faire son portrait et nous parler de ce discours ? Était-ce un manifeste ?
Non. Un discours en rupture, d'abord par le titre, discours préliminaire, on pense forcément à Diderot et d'Alembert, hein, et à l'encyclopédie, et donc on voit bien l'hommage aux Lumières. Tous les autres s'appellent préface ou avant-propos, je crois, pour la dernière édition. Mais en réalité, Joseph-Dominique Garra, qui est donc un idéologue, c'est une figure très controversée de la Révolution. Il a été éduqué par un prêtre, grand admirateur de Boileau, qui lui a donc donné une formation latine nourrie de Tacite. Hein, et je reprends ça dans ce très bon bouquin qui a été fait sur les préfaces des dictionnaires de l'Académie sous la direction de Bernard Quémada chez Champion. Et donc là, Joseph-Dominique Garra fait ses études classiques, petit séminaire. Il va devenir, comme souvent après des études de droit, avocat. Il est parrainé par la Harpe. Et il va suivre à Paris l'itinéraire d'un jeune provincial qui est promis à la réussite. Et là, il y rencontre Pankouk. On en a déjà un petit peu parlé quand on évoquait l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, puisque Pankouk poursuivra l'édition et lui donnera donc une autre forme. Il a donc une expérience, il écrit des articles dans cette fameuse encyclopédie méthodique de Pankouk. Il rencontrera Suard aussi, beau-frère du roi des libraires, censeur royal, académicien. Et donc c'est un homme qui aura comme caractéristique d'être un brillant orateur. En ce sens, il nous fait penser à Danton, il nous fait penser à ces orateurs qui naissent pendant la Révolution, un tribun. Et sanctionné d'ailleurs au bon sens du terme par l'Académie, puisque en 1777, de 1777 à 1784, il remportera par 4 fois le prix du concours d'éloquence de l'Académie française. Hein, donc c'est vraiment l'éloquence. Et comme souvent à l'époque, l'éloquence conduit aussi, évidemment avec le savoir qui convient, à la carrière de professeur, qu'il n'interrompra que sous la Révolution et l'Empire. D'abord, il sera à l'Athénée, puis au lycée comme professeur d'histoire. Et puis, c'est à lui qu'avec Chaptal, on doit les premiers cours de l'école normale. Un mot d'ailleurs qu'on trouvera dans le supplément, on le verra tout à l'heure. L'école normale, vous savez, c'est ce grand rêve des révolutionnaires, d'avoir une formation des instituteurs, et d'où l'école normale avant celle de Guizot, pour les instituteurs. Et puis cette école normale, en fait, va se transformer en grande conférence, et ça va plutôt déboucher sur l'école normale supérieure. Mais on y retrouve Chaptal et donc Gara. Donc voilà un petit peu le portrait de cet homme. On en a des témoignages. On disait que lorsqu'il donnait des cours à cette école normale naissante, il avait la voix forte, disait-on. Moins de goût que la harpe, mais plus de chaleur et de vivacité. Et un de ses témoins dit « Je lui trouve des idées un peu exaltées. Il ne parle de rien moins que de perfectionner l'organisation humaine et d'ouvrir des routes jusqu'ici inconnues à l'esprit humain. » Bon, on a là Condillac, on a là Locke, et on a là l'idéologue, en définitive. Il est reconnu, finalement, et apprécié. Même si les biographes du XIXe siècle vont en faire des critiques assez sévères. Il sera député à l'Assemblée constituante. Alors, l'homme politique, puisqu'il est quand même un homme politique, bon, il sera plus idéologue que politique. Il essaiera de s'en tirer tout au long de cette révolution qui est parfois un peu dangereuse. Il sera en définitive ministre de la Justice le 9 octobre 1792. Il va remplacer Danton à un moment difficile. Il ne va pas trop condamner les massacres de septembre 1792. Donc, on est là dans quelqu'un qui ondule, ondoie, dans cette
ce qu'on lui reprochera.
Ce qu'on lui reprochera beaucoup. Et il a réussi, après une arrestation, à échapper à la terreur. Et ensuite, là, il est vraiment davantage dans son rôle. Il sera ministre de l'instruction publique, avec une conception pour la formation des futurs instituteurs, qui est intéressante. Voilà ce qu'il disait, par exemple. « L'école normale devrait donc avoir pour but unique d'enseigner comment l'analyse s'applique avec succès aux différentes parties des connaissances humaines. » Donc, on a quelqu'un qui est intéressant. Alors, tient-il un discours révolutionnaire ? Idéologique, certainement. Révolutionnaire, bon...
C'est aller trop loin.
Oui, ça serait aller trop loin.
Alors, M. Kemada a dit, justement, dans ce livre que vous mentionnez tout à l'heure, que les préfaces représentent les seuls écrits méthodologiques à peu près permanents. Les préfaces donnent la mesure des préoccupations théoriques des auteurs. Toujours révélatrices, elles le sont moins par le détail de leur contenu que par leurs intentions. Et c'est bien cela qui est intéressant dans le discours préliminaire, ce sont les intentions.
Oui, et là, on prend bien conscience que Gara n'est pas un lexicographe dans l'âme. Il n'a pas fait le dictionnaire, il n'a pas été un des rédacteurs. Quand on y réfléchit, c'est quelqu'un qui fait une préface un peu de l'extérieur, dans un moment difficile, avec un arrière-plan, évidemment,
particulier.
Qui est celui de l'idéologie révolutionnaire. Alors, le discours est aussi très proche de celui qu'aurait pu avoir D'Alembert ou qu'auraient pu avoir les philosophes, parce que les mots sont porteurs d'idées, changent le monde, et c'est un peu ce qu'on va trouver dans cette préface. Alors, de là à parler d'orthographe, c'est pas vraiment
son
sujet.
Ça n'était pas son propos, oui.
Moi, ce que je trouve très plaisant, enfin, ce qui est amusant dans le discours de Gara, c'est qu'il évoque le bon usage. Et il dit, le bon usage, c'est celui du peuple éclairé. Alors on se dit, voilà, on est dans la perspective révolutionnaire.
Mais le peuple éclairé, finalement, ce sont les élites.
Alors, qui est le peuple éclairé ? Des hommes qui auront à la fois l'autorité des lumières auprès des esprits éclairés et l'autorité de certaines distinctions littéraires auprès de la nation entière. Si on voulait donner une définition des académiciens, on ne ferait pas mieux. Donc en fait,
il
évoque le peuple éclairé, mais le peuple éclairé, bon, c'est l'Académie française. Et alors, il ne va pas transformer le texte. Il aurait pu, dans le fond, aller bricoler, si je puis dire, le texte de l'Académie. Non, il est respectueux de ce texte. Oui. Et il ajoute, bien sûr, le supplément, ce qui fait que, bon, aux yeux des révolutionnaires, bon, c'est bien un dictionnaire avec un discours propre à l'idéologie du moment, qu'on trouvera peut-être pas assez avancé d'ailleurs du côté révolutionnaire, qu'on trouvera trop avancé du côté de ceux qui ne le sont pas. Et puis, alors, le supplément...
Alors, le corps du dictionnaire, lui-même est bel et bien l'œuvre des académiciens. Vous parliez tout à l'heure de continuité. Dans la continuité de l'édition précédente.
Oui, avec, non pas une contrainte, mais une nécessité, c'est, on en parlait tout à l'heure, c'est de suivre l'évolution du vocabulaire en fonction des nouvelles techniques, en fonction de l'évolution scientifique. Et là, l'Académie française n'est pas en retard. On compte par exemple que de 1762 à 1798, on ajoutera 7100 mots. Oui. Et 5200 à peu près sont entrés dans le dictionnaire de 1762 et 1887 dans celui de 1798. Donc 1887, 2000 mots, c'est sensible. Quels sont ces mots ? En 98, on va trouver acclimater, on va trouver agglomération, commercial, confidentiel, cynisme, imperméabilité, terme de physique, imprévoyance, impudeur, inodore. Inodore avait signalé déjà signalé par Ferraud. Insubordination, perfectibilité, temporisation, sanctionner, j'ai utilisé le mot pas très bien d'ailleurs tout à l'heure. Donc il y a d'un côté ces mots et ce qui peut-être est sous l'influence de Voltaire, bon, on ne le saura jamais, et puis on exagère peut-être, soyons prudents. Et puis Marmontel aussi jouait ce rôle-là, de rappeler l'intérêt des vieux mots, comme on le disait. On rajoute quelques vieux mots, comme bachelette.
Comme
la jeune fille, bachelette.
Ah, c'est joli.
Jeune fille d'une figure gracieuse, dans le style badin. Boutée.
Féminin de bachelier.
Voilà, c'est ça. Boutée, T-E-R, qui ne se dit que par le bas peuple et les paysans. Chauveté. Il vieillit, mais il est le seul qui dise la chose. Déduit, donc divertissement, destrier, palefroid, faconde, idoine, outrecuidant, prodresseur, truffé. Alors truffé, on va marquer populaire pour tromper. Bon, un vieux mot qui est un peu disparu.
Alors des mots anciens, des néologismes et des mots anciens.
Voilà, voilà un petit peu donc ce qu'on a reproché par la suite à la cinquième édition, c'est de ne pas avoir été complètement révisé. Bon, c'est vrai que les académiciens ont été un peu interrompus dans leur travail. Mais certes, c'est quand même une édition très intéressante,
oui,
dans le corps du dictionnaire.
Et alors, bien sûr, on peut bien noter avec Morellet, et Gara d'ailleurs, Morellet dans ses mémoires, Gara dans son discours préliminaire, que ce corps du dictionnaire représente le fruit du travail de 30 années.
Tout à fait.
Bel et bien.
Et qui est bien celui de l'Académie française, qui fait d'ailleurs que ça sera une cinquième édition.
Alors le supplément. Supplément en 12 pages, qui regroupe 330 mots environ, qui étaient les hommes de lettres responsables de ce travail dans les années 1796-1798, on l'a évoqué tout à l'heure, était-ce un appendice indispensable ? Fut-il vraiment un séisme lexical ?
Oui, séisme lexical aux yeux des contemporains. Pas vraiment aujourd'hui, puisque, comme je vous le dis, les bouquinistes ne savent pas toujours qu'il y a un supplément, qui est vraiment des plus intéressants. Et je ne crois pas qu'il ait été publié à part, ce qui est d'ailleurs dommage. Mais séisme, parce que justement, c'était un point de dispute. Ça n'était pas le travail des académiciens.
Ouais.
Autant le corps du dictionnaire est le travail des académiciens, autant le supplément est un ajout révolutionnaire, dans tous les sens du terme, et peut-être même commercial. Mais sans doute nécessaire. Et la première des choses qui a été faite lorsque l'Académie a été remise donc en vigueur dans le cadre de l'Institut, ce que nous verrons plus tard, la première des actions a été de réviser ce supplément. Et moi, j'avais fait un travail particulier il y a quelques années et qui démontrait qu'en vérité, c'est plus de la moitié des mots de ce supplément qu'on va retrouver dans les éditions suivantes. Alors, que dit d'ailleurs rapidement Gara en toute fin de préface, un dernier petit paragraphe. Il était indispensable d'ajouter à ce dictionnaire les mots que la Révolution et la République ont ajoutés à la langue. Ajouter. Bon, c'est peut-être pas très bon comme style de faire une pareille répétition, mais bon, c'est Gara. C'est ce qu'on a fait dans un appendice. On s'est adressé pour ce nouveau travail à des hommes de lettres que l'Académie française aurait reçus parmi ses membres et que la Révolution a compté parmi ses partisans les plus éclairés. C'est un peu flou, on ne sait pas trop qui y a travaillé. Ils ne veulent pas être nommés, leurs noms ne font rien à la chose, c'est leur travail qu'il faut juger. Il est soumis au jugement de la France et de l'Europe. Alors là, bon, on entre dans un grand débat politique. 300 mots à peu près.
Sans culotte, guillotine,
voilà,
lanternée.
Tout à fait.
Noyade.
Des mots très intéressants.
Septembriseur.
Voilà, des mots de...
Septembrisade.
De politique, mais aussi...
C'était indispensable,
mais aussi des mots comme aéronaute.
Oui.
Navigateur aérien qui voyage dans un aérostat. Aérostier. Alors, en général, celui qui manœuvre un aérostat, et en particulier celui qui fait partie d'une compagnie chargée du service des aérostats destinés aux observations militaires, compagnie d'aérostiers, le général est monté dans le ballon avec l'un des aérostiers. Donc là, on a quelque chose qui est vraiment très intéressant. Et sur la même page, puisque je l'ai là sous les yeux et que je viens de l'ouvrir, je vois juste en dessous « agent municipal ». Donc, ça ne manque pas de charme, officier nommé par les communes d'une population au-dessous de 5000 habitants, et on poursuit. Mais je vois aussi bureaucratie. Alors, bureaucratie qui fait donc ici son apparition et qui est ainsi définie. Pouvoir, influence des chefs et commis de bureau dans l'administration. Jusque-là, c'est neutre, mais bureaucratique n'est pas neutre. Se dit de l'influence des bureaux dans une administration et aussi d'un régime où se multiplient sans nécessité les bureaux.
Oui, bah, rien n'a changé.
Rien n'a changé, vous voyez que là, on est plutôt en avance. Et puis si je vais un peu plus loin, et bien évidemment, je vais trouver département, une nouveauté politique.
Bien sûr.
Derrière DECA, sur la même page, décadaire, décade, hein, les fameux 10 jours, la division, les nouvelles divisions du mois pour l'année française révolutionnaire, le décagramme, le décalite, le décamètre, le décilite, décimètre, bon, et puis décret, etc. Donc on a là des choses vraiment intéressantes.
Geoffroy dit en 1988, c'est le bilan linguistique de la période révolutionnaire et de sa néologie.
Je le crois. En tout cas, c'est très agréable à consulter. Surprenant, comme chaque fois qu'on évoque les néologismes. Et puis, on a tout le temps dit que l'Académie française était un peu hostile au néologisme inscrit trop rapidement dans la langue. Là, on a en quelque sorte une photographie d'un moment particulier.
Oui, une photographie intéressant. Nécessaire, à vrai dire.
Nécessaire, oui. Nécessaire.
Alors, des suffixes savants comme isme, ist, icide, isation, des préfixes contre, des, ultra, les. Puis alors, les poids et mesures.
Oui, bien sûr, kilo, kilogramme, là on a toute la série.
Issu de la loi du 18 germinal en 3, oui.
Un des mots qui reviendra le plus souvent d'ailleurs dans la préface de la 5e édition, on est souvent sensible à ces fréquences. Je me souviens qu'un des mots qui revenait le plus dans la préface du Trésor de la langue française, c'était interprétation et interpréter, ça m'est marqué. Bon. Et là, c'est le mot loi. Et parce que. En vérité, on est en pleine période législative. Hein. La révolution, c'est mettre en place des lois que Napoléon va un petit peu
chahuter.
Mettre en ordre et chahuter en même temps. Et derrière, le code Napoléon viendra. Donc on a là une édition qui est quand même assez surprenante, qui mérite d'être lue attentivement, aussi bien dans son discours préliminaire que dans le supplément révolutionnaire.
Finalement, une pérennité, nous constatons cette pérennité
oui.
À nouveau. Hein. Pérennité des définitions, pérennité des principes.
Oui.
Tout. En dépit des ruptures, en dépit des changements.
Tout fonctionne d'ailleurs comme si, et c'est le propre à mon avis des très grandes institutions, l'Académie française étant une très grande institution. Tout fonctionne comme si, quand on n'est pas de l'Académie française, on la critique allègrement. Quand on en est, si on peut dire, bon, on peut aussi, au sein de l'Académie, conduire des débats, mais il y a un esprit humain, il y a une espèce d'ouverture, d'humanisme, d'esprit d'honnête homme du XVIIe siècle, qui garantit, en quelque sorte, d'un bout à l'autre, une homogénéité. C'est peut-être ce qui frappe le plus, c'est que même quand on est dans une période de rupture, avec un dictionnaire qui veut intégrer la rupture par sa préface, son discours préliminaire et le supplément, il y a quand même, quoi qu'on fasse, une sorte de force plus forte, une force plus intense, qui est celle de l'honnête homme qui reste. Le peuple éclairé est défini par Gara, bon, je crois que c'est peut-être une très bonne définition d'ailleurs de l'Académie, un peuple éclairé.
Tout à fait. Alors c'est une très belle édition qui a été déposée à la Bibliothèque nationale. Le succès semble avoir été immédiat. Le dernier dictionnaire de la monarchie est le premier de la République, dit Gara. Mmh. Nous avons bien compris, cher Jean Prouvot, que si cette 5e édition occupe assurément une place à part dans l'histoire du dictionnaire de l'Académie française, c'est au contexte historique qu'elle le doit. Elle fut, nous l'avons vu, contestée, mal reçu et il faudra attendre la 7e édition pour que soit reconnu le dictionnaire, publié par ordre de la Convention, et que son discours préliminaire soit reproduit au même titre que les autres préfaces. Cette édition n'en reste pas moins passionnante. J'espère, Jean, que nous aurons su communiquer notre passion aux auditeurs de Canal Académie, que nous retrouvions aujourd'hui pour la 4e émission de notre série « Le dictionnaire, hier et toujours ». Notre 5e et avant-dernière émission, « J'aimais le rat », les éditions de 1835, la 6e, et celle de 1878, la 7e. Nous verrons pourquoi. À très bientôt, et grand merci Jean Prévost.
Grand merci aussi Anne-Françoise, et à très bientôt.